Comment se déroule la rentrée dans les établissements catholiques de notre région, Isabelle Duché?
Et nous faisons le point ce matin avec Nicolas Seine, directeur de l'enseignement privé d'Aveyron et du Lot. Bonjour.
Bonjour.
Les annonces plus ou moins retentissantes se sont multipliées à l'occasion de la rentrée scolaire, l'interdiction du téléphone portable au lycée, la baisse du nombre de postes d'enseignants, la lutte renforcée contre le harcèlement scolaire et j'en passe. Alors on arrive bientôt à une semaine de la rentrée. Comment s'est-elle passée dans le Lot et l'Aveyron?
Alors, elle s'est bien passée parce qu'on a décidé qu'elle se passerait bien, parce que nous avons décidé de nous concentrer sur le projet, puisque c'est ce projet que nous portons dans nos établissements, qu'ils font que les parents nous choisissent. Donc effectivement, alors d'un point de vue, j'ai envie de dire administratif, elle s'est partout bien passée dans l'académie. Il y a eu un enseignant quasi devant toutes les classes, il y a eu une organisation qui a fonctionné malgré des difficultés liées au piratage du rectorat. On remis en place des systèmes un peu anciens. Alors, on n'est pas revenu aux pigeons voyageurs, mais quand même, voilà, ça a un peu questionné les pratiques. Donc elle s'est bien passée dans l'organisation. Évidemment, mais on va en reparler, la baisse démographique nous impacte comme tout le monde, mais je crois que ce n'est pas le premier des arguments. En tout cas, comme on ne scolarise pas 100% des élèves, l'impact n'est pas tout à fait le même. Il y a probablement des correctifs à apporter.
Alors c'est vrai qu'en cette rentrée scolaire, c'est autour des lycées d'être privés de téléphone portable pendant les cours, je précise. Nicolas Seine, c'est une mesure que vous avez déjà mise en place, vous, dans les établissements catholiques d'Aveyron et du Lot. Quels bénéfices en retirez-vous?
Alors, d'abord, c'est bien de dire pendant les cours, parce que toute la gestion du temps, de la récréation, des couloirs, etc., reste quelque chose d'extrêmement compliqué. Les jeunes, on le sait, sont toujours malins pour détourner les règles. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un climat de classe qui est plus apaisé, ça c'est évident. Au-delà de l'interdiction, j'ai envie de dire, c'est la manière dont on apprend aux jeunes à se servir des téléphones, des réseaux, etc., etc. Donc, l'interdiction... Elle est décrétée là très bien, même si on l'avait appliquée dans beaucoup d'établissements. En même temps, moi, je crois que ce que je souhaiterais, c'est qu'on développe un volet sur l'éducation. Et ça concerne aussi parfois les parents, malheureusement. Il n'y a pas que les jeunes qu'il faut éduquer aux écrans.
Et ça, ce n'est pas déjà fait quand même? Ça fait longtemps
alors,
qu'on en parle.
Alors oui, on le fait, mais vous savez, les premiers éducateurs sont les parents. Quand les parents sont même toujours sur les écrans, l'école vient aussi contredire d'autres choses. Les parents aussi donnent parfois des injonctions contradictoires. Enfin, on voit bien l'hyper-réactivité. Il se passe quelque chose immédiatement, c'est sur un groupe, ça prend des dimensions extraordinaires. Alors qu'on pourrait le régler entre quatre yeux. Aujourd'hui, l'ampleur du phénomène... des boucles WhatsApp familiales, intrafamiliales, amicales, fait que tout problème prend désormais une dimension extrême. Je crois que la première éducation à faire, ça serait de dire, avant de commencer à publier ou envoyer un message, qu'est-ce qui peut être géré en face à face, en tête à tête. Et ça, on essaie de le faire, mais ça reste quand même extrêmement compliqué, puisque c'est un sujet qui dépasse l'école, en fait. C'est un sujet sociétal.
Ça. En tout cas, c'est un réflexe à travailler. Vous avez parlé, Nicolas Seine, de cette réduction du nombre d'enfants, une réduction des effectifs dans l'enseignement. Il y a une mesure qui a été annoncée le 4 février dernier, un peu tardivement pour préparer la rentrée. C'est la baisse du nombre de postes d'enseignants dans l'enseignement privé sous contrat. C'est quand même la baisse la plus importante depuis la rentrée 2013. Elle se justifie, donc on le disait, par la diminution du nombre d'enfants en âge d'être scolarisés. Néanmoins, rendre ces courbes parallèles n'est pas forcément une évidence, notamment en zone rurale.
Alors, effectivement, il y a la baisse, j'ai envie de dire, un chiffre absolu est toujours un peu compliqué au niveau académique. D'abord, il y a une difficulté aujourd'hui, c'est que sur certaines disciplines, notamment en second degré, on a plus de lauréats qu'on a de postes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être affectés sur l'académie malgré les règles qui prévalent et qui donc sont renvoyées au national. Vous avez des lauréats concours aujourd'hui, en espagnol par exemple, qui est une discipline qui est plutôt saturée, et où la pyramide des âges n'aide pas, où les jeunes sont renvoyés au national et sont parfois nommés en Seine-Saint-Denis, enfin sur des départements où ils ne veulent pas forcément aller. Donc ça, c'est quand même une première réalité. Et cette situation ne va faire que s'empirer, y compris dans le premier degré, puisqu'on a beaucoup de lauréats et de jeunes qui veulent être enseignants, et on se réjouit en parlant peut-être de la formation des enseignants après. Et en même temps, un nombre de postes qui diminue parce que la démographie aidant, on diminue le nombre de postes. Donc ça, à mon avis, il y a quand même un vrai enjeu. En même temps, ça serait une erreur de corréler les choses. Moi, je donne un exemple. Alors, c'est un peu vrai partout dans l'académie, mais le département de l'Aveyron est celui qui a le plus d'écoles de deux classes. Eh bien, dans une école de deux classes, je maintiens deux postes parce que, pour deux raisons. La première, je considère qu'un enseignant seul sur un territoire rural isolé, c'est une forme de violence institutionnelle avec qui j'échange, avec qui, voilà.
Oui.
Et puis la deuxième, c'est que dans la période où nous sommes, où on doit être gardien les uns des autres, il peut arriver que la fatigue aidant, à un moment, on est de l'usure, etc. Et comment l'autre me dit, ou comment j'ai le regard d'un autre qui me permet de... Et donc, du coup, moi, je crois que cette réalité du nombre d'enseignants, elle est évidente. Et en même temps, il faut avoir toujours ce pragmatisme qui fait qu'il faut l'adapter à la réalité de nos territoires.
Et justement, cette réalité des territoires, elle dicte aussi la présence des établissements privés, des établissements catholiques sur le territoire.
Tout à fait. Elle dicte, la réalité du territoire le dicte. Alors, il y a aussi quand même il y a deux autres choses qui le dictent. Le choix des parents. Donc, comment aujourd'hui on permet aux parents de choisir un établissement catholique ? Puis j'y reviendrai peut-être. Et puis, il y a aussi une réalité économique. Comment on a des établissements qui sont viables économiquement entre le forfait des communes, etc. Et parfois, vous avez peut-être lu ici ou là des publications de la FNOJEC, de la Fédération nationale des jeunes, c'est un combat que d'obtenir ce qui nous est dû. On ne fait pas le monde. On demande juste qu'on nous donne ce que la loi permet. Et donc, la réalité de ce maillage, elle est, à mon avis, fondée sur la réalité du libre choix. Si demain, de libre choix qui puisse de libre choix des parents qui puissent s'exercer dans des bonnes conditions, à la fois financières, mais c'est le cas à peu près partout, avec des contributions différenciées qu'on met en place de manière généralisée, y compris dans les petites écoles, mais aussi dans
ça, il faudrait le dire un peu plus, parce que ça ne se sait pas forcément. Alors, on a quand même cette image de l'enseignement catholique qui est réservé à une population aisée.
Alors, je ne vais pas dire qu'à des endroits, ce n'est pas vrai, parce qu'il y a des poches territoriales, et parfois à niveau urbain, où c'est vrai. Mais quand on regarde la mixité sociale et scolaire, alors la mixité sociale et la mixité scolaire, c'est deux choses complètement différentes. On a un peu tendance à confondre les deux d'ailleurs, parce qu'on peut considérer que la mixité sociale engendre la mixité scolaire, ce qui n'est pas du tout le cas. La difficulté de la... Du territoire et de cette mixité, elle est vraie sur l'urbain. On mesure par un indice qui s'appelle l'indice de positionnement social, c'est-à-dire la profession des parents, en gros, la mixité. Je peux vous dire que sur les territoires ruraux, et pas qu'en Aveyron, et dans le Lot, dans le Gers, à Tarbes, etc., elle est à peu près égale au public. Donc,
d'accord,
en réalité, l'enseignement catholique n'est pas réservé à... je dériche pour simplifier ce qui est un peu l'image, parfois, mais en réalité, on a... il s'agit de venir dans nos établissements pour voir qu'on a... on est le vrai reflet de la société. Et en Aveyron particulièrement, on est un exemple parfait. Le maillage est tel qu'on a exactement le même public, pour parler en clair, entre le public, entre les écoles publiques et les écoles privées. Aujourd'hui, le choix ne se porte pas sur une histoire financière, parce qu'on met en place des contributions différenciées, y compris parfois pour les repas, parce que ce qui est un vrai sujet, c'est à la fois
c'est
le transport
cantine.
Et à la fois la cantine, puisque le transport n'amène pas dans nos établissements toujours, voire souvent, et le prix du repas. C'est plus le réseau de proximité. Et donc, comment que si demain nous ne sommes pas à Lectoure, si demain nous ne sommes pas à Lourdes, est-ce que les familles iront à Tarbes ou à Auch conduire leurs enfants à l'école privée, même s'ils la choisissent? Évidemment non. Mais je pourrais dire la même chose, si demain nous ne sommes pas à Laguiole, les gens n'iront pas à Rodez. Donc l'enjeu de demain, au-delà de l'enjeu démographique, qui est une des raisons, mais qui est, de mon point de vue, la dernière, puisqu'on ne scolarise qu'en moyenne que 20% des élèves, il y a donc 80% d'élèves qui sont ailleurs, il faut juste aller les chercher par un bon projet, c'est comment on maintient un maillage de qualité qui permet que les parents nous choisissent pour porter notre projet.
Il y a un autre enjeu pour l'enseignement catholique, c'est le remplacement des professeurs absents. À propos des suppléances, l'adjoint au secrétaire général de l'enseignement catholique, Stéphane Gouraud, a récemment demandé aux académies de faire preuve de transparence sur la gestion des moyens qui lui sont dédiés. Il a aussi indiqué qu'il serait particulièrement attentif à toute remontée de tension locale. On le sait bien, il y a toujours des difficultés et on voit bien les chefs d'établissement et les parents qui se plaignent de non-remplacement de professeurs absents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les difficultés qui sont rencontrées dans le remplacement de ces enseignants, Nicolas Sen?
Oui, alors je fais juste une petite parenthèse sur... il y a les remplacements, il y a l'enjeu du recrutement, il y a l'enjeu de la formation. Voilà. Dans cette question, il y a plusieurs sous-questions, si
d'accord,
j'ose dire. Sur les remplacements même, il faut savoir que nous ne faisons pas ce que nous voulons. Nous sommes soumis aux règles du rectorat, qui décide, par exemple, que les remplacements de courte durée de 15 jours ne sont pas assurés, ou d'un mois ne sont pas assurés. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de recruter nous-mêmes des enseignants qui, de toute façon, ne seront pas payés. Donc, on subit des règles. on ne peut pas faire autrement. Quand on est sous contrat, quand on est hors contrat, c'est différent. Mais quand on est sous contrat, on n'a pas le droit. Donc, on se bagarre là-dessus. Il y a un autre sujet sur lequel on se bagarre qui est l'enveloppe globale des suppléances. Moi, il y a 6 ans que je suis en poste. Il y a 6 ans que nous demandons quel est le volume général des suppléances à l'année que nous pourrions harmoniser et arbitrer, du coup. Mm-hmm. Puisqu'il est vrai qu'être absent une semaine dans une école de 2 classes, ce n'est pas être absent une semaine dans une école de 30 classes où on peut mieux répartir les élèves, où les moyens ne sont pas les mêmes, où l'impact n'est pas le même. Et donc, du coup, nous souhaitons cette transparence-là et nous avons beaucoup de mal à l'obtenir en langage diplomatique, c'est-à-dire que nous n'obtenons pas ce volume annuel qui nous permettrait nous-mêmes de dire ben, il y a 8, 10, 15 TP en suppléance, et comment vous les répartissez, comment vous gardez. On est plutôt, on sait respecter une enveloppe. Faut-il juste savoir le volume de l'enveloppe, ce que nous n'arrivons pas à obtenir et ce que nous déplorons malgré que nous le demandions tous les ans.
Oui, oui. Alors l'autre enjeu, vous le disiez Nicolas Sell, c'est la formation des enseignants.
Oui, et des nouveaux enseignants. Du coup, alors il y a la formation au long cours. On développe des formations qui répondent à une actualité. Cette année, par exemple, en Aveyron, sur le territoire, tous les mois, pour les enseignants, on développe quelque chose autour de la santé mentale, parce qu'on voit bien que nos jeunes sont de plus en plus affectés, etc., etc. Et donc, comment les enseignants ne sont pas pris en défaut, mais ont quelques réflexes pour permettre d'avancer. L'autre enjeu, c'est l'enjeu de formation qui est porté par les IFSEC après le concours. Les jeunes qui ont 25 ans aujourd'hui, qui sont donc des jeunes de leur génération, avec une rupture anthropologique, une rupture de transmission, enfin, tout le monde sait ce qu'il en est, et qui donc viennent chez nous avec beaucoup de bonne volonté, mais sans forcément connaître, savoir qui est Saint-Jean-Baptiste de la Salle, on les forme, mais dans le bon sens.
Et comment on les fait adhérer au projet ?
On les fait adhérer au projet de manière à ce qu'ils comprennent l'histoire et qu'ils portent avec nous le projet, puisque tout repose sur cette mission fondamentale qui est la nôtre, hein, vraiment cette mission que nous recevons de l'Église, et comment donc ces jeunes qui ne le portent pas forcément adhèrent pour permettre que nous puissions développer cette éducation intégrale qui est vraiment notre marque de fabrique.
Oui. Et à défaut d'adhérer, n'y font pas obstacle.
N'y font pas obstacle. Alors, j'ai envie de dire, à un moment, quand on y fait obstacle, la porte est ouverte. Voilà, pardon d'être un peu...
Oui,
voilà.
Oui, c'est vrai.
On est chez nous, on veut bien y venir, mais on ne retient personne. Oui. Ceux qui ne sont pas heureux, je les invite à venir voir leur directeur diocésain pour leur expliquer qu'il faut faire autre chose. En tout cas, pour ceux qui le souhaitent, avoir tous les éléments pour leur permettre de bien comprendre, adhérer, former, et puisque c'est notre plus-value que cette mission éducative qui nous est confiée. Et il nous faut des hommes et des femmes qui la partagent pour la porter.
On entend aujourd'hui beaucoup de critiques, et à l'approche de cette élection présidentielle, beaucoup de critiques à propos du caractère propre des établissements catholiques. On voit bien que certains candidats veulent la peau de l'enseignement catholique. Quelles conséquences ces critiques entraînent dans le fonctionnement des établissements catholiques ?
Alors, il y a deux choses. La première, c'est que les critiques nous ont permis de nous mettre au carré. C'est-à-dire qu'en fait, la loi n'a pas changé. Simplement, les pratiques, au fil du temps, avaient glissé. Et moi, ça ne me choque pas que les heures état soient des heures état et que les heures de catéchèse, de pastorale, doivent être faites, non pas sur des heures payées par l'État. Personnellement, je trouve que c'est plutôt sain. Ça nous a permis de remettre les choses au carré. Après, tout ce qui est excessif est insignifiant. On est dans un problème qui est totalement dogmatique, en réalité. Et donc... on ne regarde pas d'abord le risque, c'est de ne pas regarder le bien de l'élève, mais c'est plutôt d'appliquer une doxa qui ne correspondra pas à la réalité. Je dis parfois, j'ai été prof d'histoire à un moment, on est exactement dans la même période qu'en 1905. En 1905, on a fermé 400 écoles en Aveyron en un an. 400 écoles en Aveyron
énorme.
En un an. Énorme. Tenues par des religieuses, c'est les pauvres qui en ont souffert, mais uniquement par idéologie. Et ce que je ne voudrais pas, c'est que par une même idéologie, on ne voit pas le bien qu'on fait et qu'on en vienne à nous priver de moyens qui font qu'on porte une mission de service public avec beaucoup moins de moyens que le service public, puisque je précise juste qu'un élève dans l'enseignement privé coûte moitié moins cher qu'un élève dans l'enseignement public. Et donc, économiquement aussi, c'est une réponse qui ne tient pas Donc il faut vraiment sortir de l'idéologie sur tous ces sujets et revenir à la racine des choses.
Qu'on se le dise. Merci Nicolas Sen.
Merci beaucoup.
Vous êtes venu ce matin pour nous faire part de la rentrée de l'enseignement catholique dans le Lot et en Aveyron. Et je rappelle que vous êtes le directeur de l'enseignement privé de ces deux départements.
Merci beaucoup. Bonne journée.